Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Les deux véhicules filent à toute allure dans les longues artères qui traversent le quartier de Cabrini Green. Dans le van en tête se trouve Balthazar avec plusieurs de ses hommes. Le second accueille la coterie des Cerbères au complet. Les bâtiments qu'ils longent sont tous plongés dans le noir. Il semblerait que quelqu'un ait fait sauter l'alimentation électrique de tout le quartier. Alors que la destination se rapproche de plus en plus, des coups de feu se font entendre, de plus en plus distincts. Des rafales de balles, des tirs isolés. Il semblerait que le refuge de Kevin Jackson soit sous le feu de ses rivaux, les Latin Kings, dont certains membres ont été changés en descendant par le terrible Philippe Rigaud. Les machinations de celui-ci ont déjà causé de nombreux problèmes en ville dans les jours précédents, et le nombre de ses victimes risque maintenant d'augmenter drastiquement. Depuis leur véhicule, les Cerbères peuvent voir les gens fuir les lieux du conflit, des femmes, des hommes, des enfants, mais il y a fort à parier que la tour accueille encore bien des civils, terrés dans leurs appartements en attendant que cette explosion de violence prenne fin. Quel est l'état d'esprit de vos personnages alors qu'ils se rapprochent du danger ?
J'imagine que Christopher, lui, il est un petit peu anxieux parce que même s'il est préparé à des situations un petit peu plus violentes, pour pas perdre son humanité, il voudrait essayer d'éviter de tuer des gens.
Je pense que Anna est également un peu anxieuse, voire stressée, puisque de base, c'est pas vraiment une situation qu'elle connaît et dont elle est la plus familière. Elle va demander à Christopher. La police devrait arriver ou c'est le genre de quartier où patrouilles ont du mal à intervenir?
Face aux gangs, on a toujours du mal à intervenir. Ensuite, on a des membres qui surveillent un petit peu la police. On peut essayer de délayer ce genre d'intervention. Donc on devrait être tranquille pour un petit moment.
D'accord.
Du coup, Lydie, elle est très stressée, pas un peu stressée, parce que genre, il y a des échanges de tirs. Elle a beau être américaine, elle a sans doute jamais trop vu un pistolet de près et encore moins se retrouver dans une bataille ou une guerre. Donc elle est là, non, mais en fait, moi, je suis développeuse. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît?
Et du coup, du côté d'Hélène?
Hélène, elle est énervée. Sachant, il y a trois stressées, une qui vénère.
Ouais, dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas.
Elle est énervée parce qu'elle va aller dans un conflit avec des gens dont elle a strictement rien à foutre. Pour des raisons dont elle a strictement rien à foutre. Du coup, elle est pas sereine parce que elle veut essayer de protéger Lydie, Anna aussi. Christopher, ça se défend lui-même. C'est tant mieux, hein, parce que ça fait un moment à essayer de sauver dans le truc. Tout ça pour faire plaisir à des têtes de cons qu'elle supporte pas, non, elle est un petit peu énervée, plus qu'angoissée, parce que vu la classe sociale de laquelle elle vient, les trucs de gang, ça l'impressionne pas plus que ça, parce que ben, elle a très certainement déjà vécu ce genre de choses, en fait.
Probablement, oui, alors peut-être pas à cette échelle, quand même, mais oui, ça me paraît assez plausible qu'elle soit pas forcément très jouasse de se retrouver mêlée à ce genre de problème, alors qu'en vérité, les ventrous, elle en a un peu rien à faire.
Ouais. C'est ça, c'est genre... elle va aller sauver des trous du cul. Elle est pas hyper motivée par l'expérience, mais...
Du coup, Anna va dire à Christopher, qu'est-ce qu'on attend de nous exactement? On doit défendre, on doit repousser l'assaut, qu'est-ce qu'on attend de nous?
D'assister, probablement d'intercepter tout ce qu'on verra, tout ce qui va être une menace. Après, j'imagine que notre cher shérif va nous en dire plus. Il va très certainement coordonner les efforts ici.
Mmh. Ouais... Ça peut être un gros problème si le shérif est dans le coup.
On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix.
J'aimerais bien hein, que ça se passe sans violence, mais nous ne sommes pas dans un monde idéal.
Ouais.
En serrant les dents, parce que un tir vient de ponctuer ce que vient de dire Christopher, Anna va dire « Je crois que la violence vient de commencer de toute façon, donc on est en plein dedans. »
Lydie est vraiment pas bien du tout. Elle a l'air hyper stressée. Elle, du coup, elle réagit pas du tout à ce que disent les autres. Elle est vraiment en train de se concentrer.
Ça va, Lydie ? T'as l'air un peu perdue. Tout va bien ?
Oui, un peu perdue. C'est-à-dire que je me suis jamais retrouvée dans une fusillade ou à proximité de tir, d'ailleurs, ou dans une bagarre de rue non plus.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qu'on fait ici. Nous sommes pas des soldats.
Je sais pas ce que je suis censé faire. Ce qu'on attend de moi.
Est-ce que le shérif en est conscient, du moins, que il aurait mieux fait de trouver d'autres alliés pour l'épauler dans ce genre de cas de figure, hein?
J'espère qu'il en a conscience, en tout cas. Si moi je peux aider, vous... Oui, enfin, il va falloir qu'il s'en soucie, malgré tout.
Je pense qu'il en a rien à carrer. Bon, Lydie... T'inquiète pas, si tu veux, tu peux rester avec moi si ça te rassure.
C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Et elle s'accroche au bras d'Hélène.
Au pire, si ça te rassure, dis-toi que si tu te prends une balle, il y a peu d'endroits où ça peut vraiment te tuer.
C'est vrai.
Tu ne te prendras pas de balle, reste en sécurité de toute façon.
Les deux vannes s'arrêtent subitement et le chauffeur devant vous annonce « On y est, regardez !» Là, il pointe du doigt le seul bâtiment qui semble illuminé, mais s'il l'est, c'est parce que plusieurs voitures brûlent juste devant, au milieu de divers déchets enflammés. La barre de logements sociaux est à une centaine de mètres, les conducteurs ayant préféré garder une distance de sécurité. L'origine des coups de feu se précise, ils proviennent de ce bâtiment précis. Il s'agit d'une sorte d'immeuble de 13 étages composé de deux tours avec une barre centrale. La façade est usée et sale, surtout au niveau du sol, où l'on peut voir de nombreux tags territoriaux appartenant aux gangs locaux. Il y a deux entrées protégées chacune par un portail en métal assez épais, mais leur serrure magnétique a cédé sans opposer de résistance avec la coupure de courant. Cette barre de logements sociaux, les gens du quartier la surnomment Goldmine, la mine d'or. C'est peut-être bien parce qu'elle abrite le refuge d'un des chefs de gang les plus prospères en ville. Il se pourrait cependant que ses rivaux soient décidés à faire sauter la banque ce soir. Christopher, Hélène, Anna et Lydie ont été lourdement équipés par Balthazar et ses hommes. Tous les quatre portent un gilet en Kevlar. Bon, selon les règles normales de la V5, ça devrait rien changer à leur capacité à absorber les dégâts. Mais comme moi, je trouve pas forcément ça très logique, on considérera quand même que ça diminue un petit peu le nombre de dégâts avant que ceux-ci soient divisés par la constitution surnaturelle des vampires. Christopher s'est vu confier un fusil à pompe semi-automatique qui contient des cartouches incendiaires.
No.
C'est l'un des moyens les plus expéditifs pour se débarrasser d'un descendant. Les membres de la coterie qui le souhaitent peuvent recevoir à leur guise un couteau de combat, un pieu, une arme à feu, comme ils le souhaitent. Des lampes torches ont également été mises à disposition.
Ok, Anna va effectivement prendre une lampe torche et un couteau.
C'est quoi qui irait le mieux qu'un truc de bagarre, un couteau ?
Hélène, elle a les armes bestiales et ça fait plus de dégâts que n'importe quel couteau...
Ouais, mais elle va quand même prendre un couteau au cas où, parce qu'on ne sait jamais.
Imagine, elle perd ses armes bestiales.
C'est-à-dire qu'elle perd ses bras ou sa bouche, ce qui peut poser des soucis.
Comme j'ai dit, c'est à ta guise, si tu me dis que Hélène prend un couteau.
Ouais, elle prend un couteau. Tu vois, elle va le mettre dans son jean, donc elle va pas forcément l'utiliser là tout de suite, mais au cas où, elle a un couteau, quoi.
Christopher sera clairement en train de se répéter lui-même. Ils sont déjà morts, ils sont déjà morts, ils sont déjà morts.
Du coup, Hélène sera un peu surprise de ça. Elle dira, bah nous aussi, Anna, c'est quoi le problème?
J'aimerais épargner des vies autant que possible, mais j'imagine que ça va pas forcément être faisable dans cette situation.
Tu as déjà tué quelqu'un quand tu étais policier, Christopher?
Oui, et je le regrette. J'aurais préféré pouvoir l'arrêter. J'ai pas eu le choix. Mais ça aurait été mieux à bien des égards si j'avais pu l'avoir vivant.
Ouais, je comprends. Écoute, dis-toi que tu peux toujours essayer juste d'être handicapant plus que d'essayer de tuer, mais bon, dans une bagarre, c'est pas si simple.
Après, s'ils n'ont plus leur tête...
Bah si j'ai bien compris, vu les méthodes de ces gens, ils n'ont jamais vraiment eu leur tête.
C'est ce que j'essaye de me dire. Qu'en face, j'ai plus des zombies que des vivants. Enfin, vivants.
Mais on peut pas vraiment les sauver, quoi.
Après, c'est un peu triste parce que du coup, ça en fait des sortes d'innocents chair à canon.
Alors que vous êtes encore à l'intérieur de votre véhicule, Balthazar est sorti du sien et vient toquer à votre fenêtre.
Ah bah, Christopher sort, hein.
On a autant sortir.
Donc tout le monde sort du véhicule, le chauffeur également, qui termine de s'équiper dans son coin. Il s'agit d'une des goules de Balthazar et il a l'air d'avoir l'habitude de ce genre de situation. Balthazar vous dit du coup, on attend le reste de mes hommes et on y va. L'audit veut qu'on exfiltre Jackson, le reste on s'en fout.
Très bien.
Après, si vous avez l'opportunité de nous débarrasser de quelques-uns de ces lécheurs tout juste tirés de la tombe, vous vous gênez pas, on a carte blanche.
Soit. Cela dit, il va du coup se tourner vers Lizzie et Anna. Je ne pense pas que ces deux-là vont être utiles sur le terrain.
Lizzie acquiesce de la tête et dit « Je vois pas trop à quoi je vais pouvoir servir à part être en danger et risquer de mettre les autres en danger. Mais si vous voyez quelque chose que je peux faire, bien sûr, je n'hésiterai pas. C'est juste que pour le combat en tant que tel, je pense plus être un poids qu'une aide. »
Anna va se taire et ne rien dire.
Balthazar lève les yeux au ciel et il va secouer la main en direction de Lizzie. Vous n'êtes pas quelques bidules de votre clan. Vous n'êtes pas censé être des sortes de magiciens.
Ils m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur justement ces fameux descendants nouvellement nés et d'avoir des visions.
Ouais, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Lizzie, tu restes près de moi, ok? Je te protège le cas échéant.
Quelques minutes plus tard, un troisième van arrive, similaire aux deux autres. Et en descendent trois personnes que Christopher reconnaît. Il s'agit de descendants qui servent de gros bras à la Camarilla, des enfants de Balthazar ou d'autres personnes de ce genre. Il y a Desmond, c'est un homme plutôt imposant au crâne rasé et à la barbe rousse et épaisse. Il y a Richard, un ancien membre des forces de police, qui est plus âgé mais qui a de l'expérience. Et finalement, il y a Blaine, une espèce de brute en jeans et en bombers qui a tout l'air d'un skinhead. En voyant les trois autres arriver, Balthazar prend rapidement les choses en main et explique un petit peu le plan. Bon, de ce que m'a dit Lodin, il y a deux endroits où on pourrait trouver Jackson. En cas d'attaque, il a une sorte de bunker installé dans le sous-sol du bâtiment A. C'est là que j'irai, vu que ça a l'air d'être le point chaud. Dans le bâtiment B, il y a normalement un appartement, au 12e étage, dont les murs ont été percés entre les tours, ce qui permet un passage discret entre les deux en cas de problème. Il est possible que Jackson se soit réfugié là en attendant les renforts. Il pointe alors Christopher du doigt. Vous, vous essayerez de vous rendre là. Ne jouez pas au héros et tout devrait bien se passer. Je doute que l'ancien dont vous avez parlé soit là. Ces mecs-là, ils préfèrent manipuler de loin. Cependant, ne sous-estimez pas ces nouvelles recrues.
Christopher va hocher la tête. Il a compris, il n'a rien à rajouter.
Et puis, essayez de vous amuser un petit peu.
Il va pas répondre à ça. Mais les autres pourront clairement voir que... Il n'est pas en train de s'amuser. Il sait faire, mais il aurait préféré être ailleurs quand même.
Si ces lécheurs sont manipulés, il est fort à parier que ceux qui les manipulent ont prévu notre arrivée. Auquel cas, ça pourrait être une souricière, un piège qui se refermerait sur nous.
Souricière, piège ou diversion.
Et tu sais comment on désarme les pièges ?
Après tout, vous avez réussi à trouver des choses sur eux et... Même ces rats qu'on a rencontrés ont été capables de démanteler leur refuge, donc on va peut-être les prendre par surprise.
Anna n'insistera pas.
Bon allez, ça sert à rien de traîner.
Lizzie suit Hélène.
Vous commencez à avancer en direction de l'immeuble, le groupe de Balthazar en tête, bien sûr. Passer près des véhicules en flammes, même à une distance de sécurité convenable, vous emplit d'un sentiment de frayeur inouï. Vraiment, votre bête intérieure n'aime pas du tout le feu et vous le fait bien ressentir. Les échanges de coups de feu se font plus distincts et vous entendez maintenant clairement qu'ils proviennent majoritairement du bâtiment A, et plus précisément de ses profondeurs. Mais les deux entrées sans exception s'ouvrent sur des cadavres, certains portant les couleurs des Bloods, d'autres celles des Latin Kings, mais il y a aussi l'air d'y avoir de nombreux morts sans signe distinctif, de simples habitants du quartier. Vos sens sont en ébullition. Après le feu, c'est maintenant le sang omniprésent qui agite vos entrailles. Ce carnage vous donne la désagréable impression d'un festin, et plus que jamais, vous vous sentez vampire. Balthazar et ses hommes se dirigent vers la porte du bâtiment A, alors que Desmond, l'un des siens, va vous accompagner du coup. À l'entrée, vous avez une espèce de grosse porte en métal qui fonctionnait avec un loquet magnétique, qui du coup ne fonctionne plus vu qu'il n'y a plus d'électricité. Et la porte est grande ouverte, il y a quelques cadavres déjà dans le passage.
Christopher va plus ou moins passer devant, sauf si Desmond passe devant lui, mais clairement il estime que du groupe c'est à lui d'être en première ligne.
Non, Desmond va laisser Christopher prendre l'initiative. Après tout, Christopher a une place sociale plus haute que la sienne. Il respecte ton rang. Si tu prends l'initiative de prendre les devants, il te laisse prendre les devants.
Bah Christopher le fait.